Alors, rebonjour pour cette nouvelle édition en direct du festival M Lire à la Halle Saint-Jean. Donc, toujours pour animer avec moi Aurélie.
Coucou.
Et Valérie.
Et rebonjour.
Donc, cette émission, on va parler de littérature, de voyage, mais plus particulièrement des activités qu'on peut trouver aujourd'hui sur ce festival. Sur ce salon, voilà, c'est bien ça. Sur ce salon, donc avec nous, Monsieur Guillaume Breteau pour nous parler de l'Astrolabe et Xavier Boulot qui nous parlera du livre sonore. Donc on va peut-être commencer avec vous, Monsieur Breteau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de l'Astrolabe? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche?
Oui, alors Astrolabe, donc, c'est une association qui fait de l'animation en astronomie. Alors aujourd'hui sur ce salon, on a un planétarium mobile. Donc un planétarium, eh bien, c'est un endroit où on peut faire une représentation du ciel. Les enfants ou les adultes peuvent donc découvrir le ciel tel qu'on peut le voir ce soir, par exemple, s'il n'y a pas de nuages. L'avantage dans le planétarium, c'est qu'on n'a aucun nuage. L'avantage aussi, c'est qu'on peut éventuellement voyager même dans l'hémisphère sud. L'inconvénient, c'est que c'est quand même moins spectaculaire qu'une vraie observation du ciel. Donc on privilégie toujours l'observation du ciel direct. Mais enfin, c'est quand même une bonne alternative.
Oui. Et puis en fait, on peut peut-être apprendre à regarder le ciel en utilisant le planétarium et après aller voir en vrai.
Voilà, l'idée, c'est tout à fait ça. C'est d'arriver déjà à comprendre comment on peut se repérer dans le ciel, puisque dans le ciel, eh bien, on n'a pas vraiment de repères comme sur Terre. Donc les gens dans le ciel ont imaginé autrefois, il y a très longtemps, des dessins dans le ciel. Alors ces dessins, ils n'existent pas dans le planétarium, ils existent sur une carte qu'on met à côté pour que les gens puissent quand même déjà avoir une vision des constellations. Et puis après, à l'intérieur du planétarium, eh bien, on essaie d'expliquer un peu comment tout ça évolue, comment on peut s'y repérer, et puis qu'est-ce qu'on peut voir de particulièrement intéressant dans le ciel.
Et comment vous est venue l'idée de créer donc, cet astrolabe mobile?
Ben, moi, j'ai été toujours passionné un peu par l'astronomie depuis... Bon, je pense depuis mon enfance, parce que je suis de la génération Spoutnik, de la génération des premiers hommes sur la Lune. Donc l'espace m'a toujours attiré. Et puis il y a quelques années, je me suis trouvé donc sans emploi. Et c'est là que l'idée m'est venue de créer une association et à vocation de médiation scientifique, notamment autour de l'astronomie.
Et vous vous rendez, donc là aujourd'hui vous êtes dans le salon, mais vous allez dans les écoles directement, vous faites des interventions dans quel cadre?
Oui, alors l'intérêt de cet instrument, eh bien, c'est qu'il est mobile, donc on peut l'installer assez rapidement dans un local. Bon, il faut quand même un local un petit peu plus grand qu'une salle de classe, mais en général dans le hall de l'école ou dans la salle des fêtes du village, ça peut s'installer. Et puis, alors après, ça dépend beaucoup des demandes des enseignants notamment ou des associations. Ça peut être effectivement une intervention sur plusieurs classes. Ça peut être une intervention spécifique sur une classe. Ça peut être aussi une intervention répétée sur plusieurs journées au cours de l'année avec un programme plus axé sur l'astronomie et la découverte du ciel.
Combien de temps dure une séance? Par exemple, là, vous allez en refaire dans l'après-midi. Combien de temps dure une séance?
C'est très variable. Hein. Alors bon, aujourd'hui, comme c'est quand même un public très très varié, on fait des séances relativement courtes, enfin une demi-heure à peu près. Maintenant, pour des enfants, par exemple, ou des adultes qui sont plus motivés, plus branchés, sur des niveaux un peu homogènes, on peut faire des séances jusqu'à une heure et demie. Bon, au bout d'une heure, parce que dans le planétarium, on est assis par terre quand même, donc au bout d'une heure, déjà, on commence à avoir envie de bouger. Mais bon, ça peut durer assez longtemps, quoi.
D'accord. Et vous avez quoi comme formation? Parce que du coup, vous faites de l'astronomie, vous faites de l'animation, vous avez quoi comme formation?
Alors, j'ai fait une formation en astrophysique à l'Université d'Orsay. Et puis après, je me suis formé beaucoup à partir de stages et puis de lectures et d'observations personnelles.
Et c'est comment de regarder les étoiles en Lozère?
C'est bien. C'est bien, voilà. Donc c'est quand même, si on est en Lozère, dans un endroit privilégié, parce que, eh bien, on a quand même assez peu de pollution lumineuse. Alors c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Moi. Donc c'est au sein d'une autre association qui s'appelle l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, où on essaie d'inciter les communes à réduire leur éclairage public, alors soit par des lampadaires moins puissants et mieux dirigés surtout, et puis éventuellement aussi en pratiquant l'extinction nocturne en milieu de nuit, au moment où il y a plus grand monde dans les rues, quoi. Alors ça, c'est un combat qu'on mène, que mènent les astronomes, avec aussi beaucoup de gens qui sont branchés sur la préservation de la nature, parce que bon, il faut savoir que l'éclairage public nuit à l'observation du ciel, évidemment, mais nuit aussi beaucoup à une quantité d'animaux impressionnante, et nuit aussi à la santé de l'homme.
Et vous faites une sensibilisation sur ce thème auprès des enfants, ou parce que du coup vous parlez du ciel, etc., mais est-ce que vous leur parlez du danger quand même que représente l'éclairage public notamment?
Oui, en général, sauf quand c'est vraiment des animations pour les tout-petits, mais sinon, à partir de 10 ans, je pense que les enfants déjà peuvent prendre conscience. Alors, il y a un petit truc tout simple, en fait, c'est que quand on entre dans le planétarium, il y a un éclairage qui est de couleur bleutée, donc qui est un peu comme la couleur du ciel, quoi. Et quand on enlève cet éclairage, ou quand on le diminue progressivement, on voit apparaître les étoiles. Donc déjà, c'est parlant de soi, quoi.
Oui, la démonstration est toute faite de la pollution que peut représenter pour l'observation toute cette lumière. Voilà, du coup, quels sont les sites en Lozère où on peut aller observer les étoiles, sites privilégiés, un peu en hauteur?
Déjà, s'éloigner un peu des centres-villes. Après, il y a des endroits qui sont très bien adaptés. C'est tous les endroits de Causse, à partir du moment où on est loin de lampadaires, tout le mont Lozère, etc. Après, il faut arriver à trouver des endroits suffisamment dégagés, et puis à peu près plat si on veut quand même avoir un petit peu de confort d'observation. Mais on peut aussi s'allonger dans son jardin et regarder le ciel, tout simplement.
Il y a des périodes de l'année qui sont mieux pour avoir une meilleure visibilité du ciel, des constellations
Disons que le moment où le ciel est le plus pur, c'est en hiver, mais quand il fait moins 10, on n'a pas forcément envie de passer des heures dehors.
Mais il fait noir plus tôt.
voilà. Donc l'hiver est une bonne période. Maintenant, on peut aussi observer quand même toute l'année. Alors, on observe plus facilement l'été, parce qu'effectivement, c'est une période de vacances, donc on traîne un peu plus dehors, et puis il fait moins froid. Maintenant, il y a aussi des périodes au cours du mois, parce que les périodes de pleine lune ne sont pas vraiment propices quand même pour l'observation d'un bon ciel. Alors on peut observer la lune, la lune, on a vite fait le tour quand même, quoi. Donc moi j'aime bien les périodes de premier croissant, premier quartier, parce que on peut voir la lune en début de nuit, ce qui est quand même toujours spectaculaire, notamment avec un instrument. Et puis, une fois que la Lune se cache, on peut observer des tas de choses dans le ciel qu'on n'imagine même pas, quoi. Des nébuleuses, des galaxies, etc.
Il y a des guides que vous conseilleriez pour, si on veut découvrir un petit peu tout ce qui est le phénomène astrologique à la maison?
Astrologique ou astronomique?
Astronomique.
Je voulais lui demander s'il était un doux rêveur, s'il avait tendance à avoir la tête dans les étoiles après.
Non, il y a une littérature très très abondante à ce niveau-là, pour tous les âges, tous les niveaux. Je ne citerai pas de titre parce qu'il y en a tellement. Alors, il suffit d'aller chez votre libraire, je pense, et de lui demander conseil. Il pourra vous trouver quelque chose d'adapté. Il y a aussi d'autres façons de découvrir le ciel. C'est avec des logiciels maintenant. À peu près tout le monde a un ordinateur chez soi, une connexion Internet. Alors sur Internet, on trouve des quantités de choses. Et puis il y a des petits logiciels, c'est même des bons logiciels qui sont gratuits, qui ont été développés par des passionnés. Alors je vais en citer deux, mais il y en a d'autres. Stellarium et puis WinStar. Donc ce sont des logiciels qui sont très faciles à aborder et qui sont magnifiques, quoi.
Juste une autre petite question par rapport aux ateliers que vous allez proposer. Donc on rentre là-dedans, on voit le ciel. Est-ce que vous racontez une histoire, je ne sais pas, de comment s'est créé l'univers? Qu'est-ce que vous allez raconter, vous?
Alors en général, je commence par expliquer comment on peut se repérer dans le ciel. Parce que dès qu'on veut regarder le ciel, ce qui est important, c'est de ne pas perdre le nord. et déjà découvrir où est le nord à partir de l'étoile polaire. Alors ça peut aussi illustrer éventuellement des fois de petites histoires, ça dépend aussi du public en question, quoi. Et puis après, ben, j'essaie de montrer quelques constellations suivant les périodes, justement. Alors en ce moment, bien, ce que je montre, c'est le ciel qu'on va pouvoir voir cet hiver, donc avec la constellation d'Orion notamment. Et puis, essayer aussi de placer quelques petits éléments historiques sur comment ont été faites les découvertes, comment on a commencé à utiliser les instruments, etc., quoi.
Alors, on a parlé de Lozère, on a parlé d'environnement. Pour moi, la transition, elle est toute trouvée pour interroger Xavier Boulot sur sa BD sonore. Mais justement, puisqu'on parle de sonore, avant, on va faire une petite pause musicale. Comme ça, on rejoint une autre de vos passions. Et Guillaume, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Je vous propose d'écouter Les Patineurs de Clarica.
Un de ses favoris.
Aïe. Donc de retour dans cette émission dédié au voyage et à la littérature en direct de la Halle Saint-Jean pour le salon Aime Lire. À mes côtés, donc toujours Aurélie et Valérie. Et comme invité, donc, on a eu monsieur Guy Arbroteau qui nous a parlé de l'Astrolabe. Et donc maintenant, on va s'intéresser au livre sonore de Xavier Boulot.
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que...
je peux vous expliquer un petit peu le principe de mon... Donc en fait, j'ai réalisé une bande dessinée sonore intitulée « La balade de Bluesmanoïde ». Et l'idée, en fait, c'était... moi, j'ai étudié la bande dessinée à Angoulême. Et par la suite, j'ai aussi étudié la musique électroacoustique au conservatoire de Nîmes. Et en musique électroacoustique, il y a un solfège particulier qui s'appelle le solfège de l'objet sonore et qui permet de représenter les sons de la musique électroacoustique graphiquement. Parce que cette musique se fait avec des sons enregistrés, des bruits de casseroles, des chants d'oiseaux, des choses comme ça. Ça ne peut pas être représenté par des notes classiques, donc on les dessine. On les dessine sous forme de symboles graphiques abstraits, censés les représenter. Et moi, j'ai eu l'idée d'utiliser ce langage et de le superposer à une bande dessinée narrative. Donc les planches de ma bande dessinée servent à la fois de support narratif et de partition graphique pour une musique qu'on peut écouter en lisant la bande dessinée.
Donc dans ces images, on va avoir des images d'une histoire concrète, j'allais dire, de BD, mêlée voilà. à des notes un peu contemporaines.
Voilà, en fait, l'image de mes cases, dans chaque case, vous voyez une scène figurative liée au récit. Donc le récit est simple, c'est l'histoire d'un personnage solitaire dont on ne sait pas trop s'il est humain ou robot. Et il descend le Tarn, des sources du Tarn jusqu'à la sortie des gorges du Tarn. Donc ça se passe en Lozère. Mmh. Et c'est une sorte de balade onirique et un peu initiatique pour le personnage qui va apprendre à se connaître et découvrir un peu sa part d'humanité. Donc on a ce récit. Et chaque case, donc on voit une scène du récit et on voit aussi se superposer des notes abstraites qui représentent la musique.
D'accord.
Donc on peut lire la BD tout en écoutant la musique. Sachant que si par exemple vous avez une scène où le personnage plonge, vous allez entendre le bruit d'un plouf, quoi, quelqu'un qui plonge, et ce sera ponctué par, de façon plus ou moins rythmée, par une note percussive ou un son qui va accompagner cette bande-son de bruit de la nature. Voilà.
Et à contrario, en écoutant certains bruits, ça peut complètement transformer l'histoire justement ou... Vous l'avez pas transposé
en fait,
dans ce sens-là.
Si vous voulez, l'histoire, en fait, c'est surtout sur le plan formel. La BD est contrainte par le fait qu'il y a des notes qui se superposent aux images figuratives. Donc, formellement, ça donne quelque chose d'assez original. Et après, au niveau de l'histoire, y a des séquences où le personnage se pose et joue un air de guitare. D'accord. Donc, ça s'entend dans la musique.
C'est vraiment de la guitare.
Voilà, il y a des parties... De musique plus classique, quoi, plus traditionnelle, où on entend des mélodies à la guitare ou à l'harmonica. Donc voilà, vraiment, musique et dessin et récit sont liés.
D'accord, et ça peut être décliné à l'infini, certainement, vu qu'il y a autant de bruits au monde qui existent que d'images, j'imagine.
Ouais. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment un récit... c'est un petit peu, si vous voulez... une hymne à la nature, quelque part. Donc, il y a beaucoup de bruits de la nature qui contrastent avec des bruits que moi, j'ai fabriqués avec un synthétiseur. Je trouvais ça intéressant de mêler des sons électroniques avec des sons naturels.
Naturels, d'accord.
Voilà. Le murmure de l'eau qui se mêle à une nappe de synthétiseur.
D'accord. Et comment ça vous est venu l'idée de créer justement cette balade sonore?
En fait, c'est parce que, si vous voulez, je viens d'abord de la bande dessinée, donc j'aime raconter des histoires sous forme de bande dessinée. Et je viens aussi de la musique électroacoustique et connaissant le solfège graphique de la musique électroacoustique, je me suis dit mais ça pourrait fonctionner, les deux pourraient fonctionner, bande dessinée et partition graphique pour une musique électroacoustique. Donc j'ai tâché de lier les deux dans ce projet de la balade de Bluesmanoïde. Ouais. Et ensuite, à l'origine, ce projet était destiné à l'édition papier, avec un album BD papier avec un CD audio. Mmh. Et puis, comme il y a du son et de l'image, en cours de route, je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo. Donc j'ai fait un montage vidéo avec l'aide d'un collègue, Olivier Barthez, qui est vidéaste. J'ai fait un montage case par case, un diaporama sonore en fait de ma BD, donc qui est visible là aujourd'hui sur MLIR. Vous voyez sur grand écran la BD donc case après case, ce qui permet de suivre le récit au son de la musique qui est synchro avec les images.
Et est-ce que comme Guy, vous participez aussi à des interventions auprès des enfants en milieu scolaire ouais. Et ça se passe comment, une intervention type, s'il y en a une?
Alors, concernant des interventions autour de ma bande dessinée sonore, pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des ateliers, mais c'est prévu pour... notamment pour le festival de la Petite Roulotte, où je ferai des interventions auprès des classes qui participeront au festival. Et là, sur des séances de 1h30, je leur ferai écouter des séquences musicales de ma bande dessinée sonore, sans leur montrer les images. Et j'essaierai de leur apprendre à différencier les différentes sortes de sons qui existent et qui sont présents dans le morceau. Je leur demanderai de voir, de différencier un son d'instrument, un son concret, c'est-à-dire un son du réel, un son transformé, un son électronique.
D'accord.
Voilà. Et je leur proposerai aussi de faire une interprétation graphique de ce qu'ils entendent, une partition graphique.
Ouais.
Voilà. Et ensuite, ils verront en intégralité la projection de la BD, donc.
D'accord.
Une projection qui dure 20 minutes.
Ce sera une façon peut-être un peu plus ludique d'apprendre le solfège que la méthode traditionnelle.
Ah ouais, moi je trouve que c'est vrai que c'est quelque part la musique électroacoustique, c'est pas très répandu, donc ça peut être difficile d'accès. Mais par contre, au niveau de la pratique et de l'écriture du solfège, c'est beaucoup plus accessible que la musique classique. La musique classique, si tout à coup vous voulez faire une musique symphonique, si vous n'avez pas 10 ans de solfège derrière vous, vous ne pouvez pas y arriver.
Ouais.
Alors que la musique électroacoustique, il suffit d'apprendre à utiliser un logiciel sur ordinateur et très vite, vous pouvez devenir un compositeur en musique électroacoustique.
D'accord.
Finalement, dans la musique électroacoustique, la technique est vraiment... il faut avoir des idées, voilà. Des idées et être inspiré par les sons pour en faire de la musique.
D'accord. Et les sons, ça peut être des sons donc, que vous prenez dans la nature, ce que vous disiez, et après vous les rentrez dans votre ordinateur.
Voilà, ouais.
C'est pas l'ordinateur qui les crée.
Alors si l'ordinateur me permet de fabriquer des sons électroniques, des sons abstraits électroniques, des sons qu'on n'entend pas dans la nature. Mais j'aime aussi prendre mon appareil enregistreur et aller me promener dans la nature pour enregistrer des sons, ou alors aller me promener en ville aussi pour enregistrer des sons urbains.
Les sons de la rue, les sons de...
Voilà, les sons de la rue. Je connais une pièce d'un compositeur connu qui s'appelle Christian Zanessi qui a enregistré le passage des voitures au bord de la route.
D'accord.
Et l'a tellement transformé que finalement, dans sa pièce, on a l'impression d'entendre des étoiles filantes passer.
Ouais.
Parce qu'il a mis des filtres dans son enregistrement initial et il a créé des sons nouveaux.
Ouais.
Voilà.
Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de patience pour organiser tout ça, pour transformer un son de l'état brut jusqu'à l'état, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Oui. Ça demande du temps parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut aller enregistrer les sons dans le cas des sons concrets. Et ensuite, il faut les retravailler sur son ordinateur. Donc déjà, quand on a un extrait sonore, il faut isoler un son qui est intéressant. Et ensuite, ce son-là, il faut le retravailler si on souhaite le transformer avec des logiciels adaptés.
D'accord.
Il y a quand même une dimension très personnelle parce que j'imagine que on n'a pas tous les deux, par exemple, la même représentation de ce qu'est un bruit d'étoile filante. par exemple.
Ouais, non, mais moi, oui, moi, ça m'évoque un bruit d'étoiles filantes.
Oui, voilà.
Une voiture qui passe avec un filtre et une accélération du son. Le son devient aigu. Avec une réverbe, moi, ça me fait penser au son d'une étoile filante.
Peut-être que Guy pourrait nous dire, si l'étoile filante produit un son.
L'étoile filante peut produire un son si elle est suffisamment grosse. Et effectivement, mm-hmm. on peut entendre le bruit en fait, de l'étoile filante qui rentre dans l'atmosphère terrestre.
Et alors, est-ce que ça ressemble au bruit d'une voiture qui passe?
Bon, il faut de l'imagination. Mais...
Tout dépend de la marque de la voiture.
Mais comme je vous dis, le son dont je vous parle a été retravaillé. On n'entend plus le son d'une voiture, en fait.
D'accord. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On va faire une petite pause musicale et on se retrouvera vers 15h15 avec une nouvelle émission qui sera... Les invités, ce sera...
Les auteurs locaux,
eh oui.
Les auteurs locaux.
Merci Guillaume,
on vous incite à venir quand même, vous tous qui êtes chez vous, qui vous ennuyez peut-être, qui nous écoutez, venez nous voir en direct et venez au salon.
Non Guillaume, s'il nous écoute, il ne s'ennuie pas.
C'est vrai.
Mais venez découvrir la balade sonore le long du Tarn, voilà. Voyager un petit peu.
Comme je vous dis, c'est un spectacle qui dure 20 minutes en 4 parties. Voilà.
D'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à la Halle Saint-Jean. Vous pourrez même nous croiser aussi. Et on part en musique avec Étienne Dao, Le premier jour du reste de ta vie.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes, sache que du berceau à la tombe, c'est du...